Décryptage. Véronique Rigolet.
Et dans Décryptage, ce soir, l'escalade en Ukraine avant de possibles négociations. Depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis et sa promesse d'arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, les combats s'accélèrent, en tout cas dans le conflit ukrainien. Après 1000 jours de guerre et un dernier coup de pouce de Joe Biden qui a permis à Kiev de tirer lundi soir ses premiers missiles à longue portée américains contre des cibles en Russie, alors que Moscou intensifie également drastiquement ses frappes contre l'Ukraine et menace à nouveau de recourir à l'arme nucléaire. Une escalade en forme de course contre la montre dans chaque camp pour arriver en position de force à la table des négociations. À 2 mois du retour aux affaires de Donald Trump, le bras de fer se durcit en tout cas dangereusement. Pour en parler ce soir, en ligne avec nous, Cyril Brett, géopoliticien, maître de conférences à Sciences Po Paris, chercheur associé, spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à mes côtés, dans ce studio, Guillaume Ancel, ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, paru chez Flammarion. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les deux de nous rejoindre sur RFI. Pour commencer, bien sûr, un commentaire sur les nouvelles menaces de recours à l'arme nucléaire de la Russie. Guillaume Ancel, ce n'est pas la première fois. Est-ce que Poutine bluffe à nouveau ou est-ce qu'on a des raisons sérieuses de s'inquiéter ?
Aucune raison de s'inquiéter, pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus de la 110e fois qu'il évoque la menace nucléaire depuis le début de la guerre en Ukraine, de la guerre qu'il a déclenchée en Ukraine. Donc on voit très bien qu'il est régulier comme un métronome, ça veut dire qu'à peu près tous les 15 jours, on a droit à... vous vous souvenez que la Russie est une grande puissance nucléaire que tout le monde sait, donc ça ne change rien au sujet. La deuxième, c'est que ça n'a aucune crédibilité. Je voudrais juste donner un élément de comparaison. Une arme nucléaire, la moins puissante des armes nucléaires, est 20 000 fois plus puissante qu'un missile Atacoms. Comment est-ce qu'on peut justifier que... Le missile américain Atacoms. Ça veut simplement dire qu'une arme nucléaire n'est pas une arme qui permet de faire la guerre. C'est une arme de destruction massive. Si on rentre dans l'utilisation d'une arme nucléaire... On n'est plus en train de faire bataille. On est en train de détruire totalement le territoire ennemi. Même la Chine a prévenu Poutine que s'il utilisait une arme nucléaire, elle ne pourrait plus le soutenir et que probablement elle prendrait des mesures contre la Russie. Ce qui veut dire que le jour où Poutine sera tenté d'utiliser une arme nucléaire, c'est la fin de la guerre et il l'a perdue.
Alors si ce n'est pas si c'est effectivement un bluff nucléaire, Cyril Brett, si la menace n'est pas sérieuse, que cherche donc Poutine en agitant régulièrement cette menace nucléaire ?
Je pense que la menace est sérieuse, c'est simplement que nous n'avons pas franchi un pas vers la guerre nucléaire en Ukraine avec l'adoption de l'Oukaz du 19 novembre. Il faut revenir à la forme qu'a prise cette communication ou cette gesticulation nucléaire, c'est l'entrée en vigueur d'un décret sur la doctrine nucléaire russe, et plus précisément le nouvel article 11 qui précise que la dissuasion nucléaire et l'usage des armes nucléaires peut être déclenché lorsqu'un État non nucléaire est épaulé ou agit en concertation avec un État nucléaire. Et c'est ça la nouveauté. Ce qu'elle décrit de façon doctrinale et non pas dans une communication politique, elle décrit de façon doctrinale la situation présente suite à l'attaque ukrainienne à l'aide de missiles américains. Donc l'évolution est notable, elle doit être prise au sérieux. Après le 19 novembre, nous ne sommes pas au seuil d'une guerre nucléaire, et cette fois-ci pour des raisons qui sont tactiques. C'est-à-dire que pour le moment, le rapport de force est dans une dynamique qui est plutôt favorable à la Russie. C'est elle qui progresse peu à peu, et ce sont les Ukrainiens qui sont soumis, je pense qu'on y viendra, à des perspectives qui sont beaucoup moins favorables, et notamment l'attrition de leurs moyens militaires et la perspective d'une paix forcée par Donald Trump.
Alors que cherche Poutine ? Est-ce qu'il cherche également à faire peur aux opinions publiques occidentales ? C'est toujours la même manœuvre pour qu'elles se désolidarisent de l'Ukraine ? Il y a toujours ça dans la tête du président russe, Guillaume Ancel ?
Je crois que le commentaire de Cyril Brett est très évocateur de la cible que recherche Poutine. C'est jouer sur nos peurs. C'est jouer sur la menace.
Parce qu'en fait, c'est une constance.
Argument. purement rhétorique, mais en fait, Poutine a toujours régné par la peur qu'il inspire aux autres, dont on sait aujourd'hui que son armée était beaucoup moins puissante que ce qu'on a craint, et regardez les réticences avec lesquelles on s'est engagé, en fait, derrière l'Ukraine. Même la décision du président Biden d'autoriser enfin que simplement l'Ukraine puisse riposter, parce qu'elle est dans vraiment dans un cas de légitime défense. On a cru qu'on allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, alors que Poutine ne s'est absolument pas posé la question quand il a impliqué 10 000 soldats nord-coréens ou quand il s'est fait livrer 3 millions d'obus par la Corée du Nord. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre total entre sa manière de communiquer vers nous et puis sa manière de faire. Donc je suis désolé, mais il ne faut pas s'arrêter à sa rhétorique. Sa rhétorique, elle est importante pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'à partir du 20 janvier, avec l'investiture du président Trump, eh bien, Trump l'a annoncé, il veut stopper la guerre, ça ne veut pas dire construire la paix, mais par conséquent, il veut venir avec des cartes de négociation sur la table. Une de ces cartes sera ce qu'a expliqué Cyril, il dira, vous avez vu, moi, je suis prêt à utiliser des armes nucléaires si jamais on me menaçait.
C'est une carte de plus, c'est la carte de la
peur. C'est une carte
de
plus, voilà. Et c'est tout. C'est une autre carte qui joue sur nos frayeurs.
Alors justement, de son côté, que cherche Joe Biden, hein, qui va devoir laisser la place le 20 janvier prochain à Donald Trump, en donnant un tournant stratégique majeur, hein, le droit aux Ukrainiens d'envoyer des missiles américains pour cibler des cibles en Russie, en fournissant aujourd'hui des mines antipersonnelles, Cyril Brett. Le président américain ne cherche pas, ce faisant, à inverser le cours du conflit. Hein, c'est trop tard.
Je pense d'abord qu'il faut, saluer une action qui est en conformité avec les convictions démontrées de l'administration Biden depuis le début du conflit. 80 milliards de dollars, dont 60 milliards de dollars d'aide militaire pour un pays qui n'est pas d'intérêt immédiat et direct pour les États-Unis. C'est un effort de guerre, un effort économique qui a été particulièrement important. Les modifications d'envoi de matériel de guerre que vous avez signalées sont importantes, sont peut-être sans doute plus importantes politiquement et symboliquement pour la legacy, pour l'héritage de l'administration Biden.
Car elles arrivent tard. Oui.
Que pour le cours de la guerre. Ce ne sera malheureusement pas ces armements qui vont permettre à l'Ukraine de reconquérir les territoires qui sont illégalement occupés, annexés et martyrisés par la Russie. Et donc, c'est effectivement un dernier signal, une dernière prise de position politique de principe absolument essentielle, selon laquelle eh bien, les États-Unis et les Occidentaux avec eux soutiennent le droit à l'autodéfense de l'Ukraine.
Et est-ce que c'est également un signal politique à l'attention de Donald Trump qui pourrait négocier la paix avec Poutine, mais sans les Ukrainiens ?
Oui, probablement.
Guillaume Ancel.
Il y a dans la décision inattendue du président Biden, puisqu'en fait, on a espéré pendant plus d'un an qu'il autorise les Ukrainiens simplement à pouvoir riposter de manière symétrique à celle des Russes, qui ils l'ont montré encore dimanche dernier, qu'une vague massive d'attaques sur l'ensemble de l'Ukraine ne s'est pas beaucoup posée de questions sur ce qu'ils avaient le droit ou pas le droit de faire. Avec ces décisions très tardives, on imagine que c'est forcément lié à l'affichage du président Trump de vouloir stopper la guerre avec son arrivée. Et en fait, on voit bien que d'un côté, ça a déclenché une accélération du mouvement chez les Russes, qui sont prêts à sacrifier encore plus d'hommes et plus d'énergie pour conquérir un petit peu plus de terrain. Des conquêtes qui sont très limitées. Je rappelle que depuis octobre dernier, les Russes n'ont conquis que 2700 km². Si on le rapporte aux 600 000 km² de l'Ukraine, à ce rythme,
c'est 18% de l'Ukraine.
Il leur faudrait deux siècles pour finir de soumettre l'Ukraine. Mais on voit bien que les Russes essayent d'avancer le plus vite possible parce qu'ils ont en tête cet agenda imposé par Donald Trump et que finalement, le président Biden, qui est encore aux commandes jusqu'au 20 janvier, donne aux Ukrainiens une carte supplémentaire qui est « vous pouvez aussi montrer que vous pouvez commettre des dégâts importants et les Ukrainiens ne se gênent pas pour le faire, ils vont le faire sans doute jour après jour ».
Plus précisément, on l'a dit, ces missiles ne vont pas aider à faire gagner la guerre aux Ukrainiens, on n'en est plus là, mais est-ce qu'elles peuvent être décisives, ces frappes en Russie, pour gagner la bataille de Koursk ? Est-ce que ce n'est pas là que ça se joue, Guillaume Ancel ?
Alors, à mon avis, Koursk a été un prétexte pour l'administration Biden pour relier en termes de communication le fait que puisque les Russes faisaient rentrer des Nord-Coréens, eux, ils autorisaient qu'on puisse frapper sur le territoire russe. Mais ce n'est pas la bataille de Koursk qui est importante pour les Ukrainiens. Regardez les frappes qui ont été commises. Hier, ils ont frappé sur un très important dépôt de munitions dans la région de Bryansk. Aujourd'hui, ils frappent sur un poste de commandement qui n'est pas crucial, mais qui est important, à 150 km de la frontière ukrainienne, dans la région de Belgorod. En fait, il frappe au-delà de 100 km, ce qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'ici, et jusqu'à 200-250 km. Et ils vont mettre en difficulté la logistique russe, alors que celle-ci, au contraire, essayait d'accélérer son avancée en Ukraine. En fait, ils vont fragiliser l'armée russe et ils vont l'obliger à plier bagages d'un certain nombre de bases importantes au-delà de la portée de ces missiles attaquants. Je rappelle que l'autorisation américaine porte aussi sur des munitions qui pourraient être emportées par des F-16 pour faire des frappes bien au-delà de la frontière.
Cyril Brett, est-ce que le sort de Kursk, où les troupes ukrainiennes ont pris pied et bataille, a une portée stratégique dans le cadre d'un futur règlement de paix? On dit que ça pourrait servir de monnaie d'échange quand arrivera l'heure des négociations, sans doute contre une partie du Donbass. Est-ce que c'est ça qui se joue?
Oui, assurément, dans l'immense négociation et dans l'immense troc qui va s'engager en cas de négociation de paix, effectivement, occuper même une parcelle du territoire russe pour l'Ukraine est une carte qu'il faudra jouer, et la position de l'Ukraine n'est pas aussi forte, surtout si Donald Trump impose une paix rapide. Les Russes aujourd'hui ont à leur disposition des atouts structurels. On a parlé très abondamment du parapluie nucléaire sous lequel ils ont placé leur opération militaire spéciale, leur invasion. Ils occupent 20% du territoire ou plus. Ils ont mis en branle une mécanique internationale de leur propre coalition et sont installés dans un grand effort de guerre sans que leur économie ne fléchisse, du moins pour le moment. L'asymétrie est assez forte, le contraste est assez fort avec l'Ukraine, dont l'économie est aujourd'hui en lambeaux, qui est tenue à bout de bras par des alliés européens, américains et asiatiques. Et on voit bien que le soutien américain va vouloir évoluer vers une autre position, celle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, et qu'à mesure que le temps passe, malheureusement, la position des Ukrainiens pour l'entrée en négociation ne sera pas aussi forte, d'où la nécessité de disposer d'atouts ou de cartes comme l'occupation d'une partie du territoire de Kursk, des armements qui effectivement pourront désorganiser la logistique, et puis également un appel à la conscience internationale pour que le droit international et le respect des frontières ne soient pas bafoués dans ces négociations.
Et c'est cette même nécessité d'instaurer le plus grand rapport de force qui explique le déluge de feu actuel que la Russie fait tomber contre l'Ukraine.
Ah oui, très clairement.
Guillaume Ancel.
On voit bien que la Russie a besoin de cette accélération parce qu'ils ont compris cet agenda. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que Trump n'a jamais dit qu'il avait l'intention d'instaurer la paix. Il a dit qu'il avait l'intention de stopper la guerre. Et malheureusement, il y a une grande différence entre les deux. Stopper la guerre, ça veut dire forcer l'Ukraine, qui est très dépendante de l'aide américaine, malheureusement, à stopper les combats. Et ça, ils peuvent le faire pour deux raisons. Il y a les munitions qui sont livrées, mais surtout, l'Ukraine est totalement dépendante, comme la plupart des pays européens, du système de renseignement américain, de leur immense réseau de capteurs et de satellites. Ce sont eux qui permettent de savoir où sont les cibles, comment on trace une route pour les missiles pour traverser les défenses solaires et la guerre électronique russe. Et donc, si Trump décide qu'on stoppe les combats là, quelle que soit la volonté des uns et des autres, de toute façon, on deviendra myope et en plus, on aura très peu de munitions dans les poches. Donc, les combats seront obligés de s'arrêter. Est-ce que pour autant, on aura la paix? Ça, j'en doute, parce que Poutine n'a jamais caché son intention d'avoir du temps pour reconstruire son armée, qui a été très abîmée par ses 33 mois de combat, ses 1000 jours de combat, et que dès qu'il en aura l'occasion, il reprendra sans doute cette offensive, sachant que, on l'a tous constaté, Poutine n'a pas de marche arrière.
On peut arrêter la guerre, mais la paix sera longue à être gagnée. Cyril Brett, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui pourrait jouer à la table des négociations quand Trump arrivera dans 2 mois? Est-ce qu'on aura affaire au deal classique, comme le dit Trump, les territoires contre la paix, avec sans doute des garanties de sécurité pour l'Ukraine? C'est vers ça qu'on s'oriente, à votre sens?
Alors, je pense que pour cette discussion, qui est la plus importante désormais, il faut revenir à ce que nous a dit Guillaume Ancel, c'est-à-dire que pour le moment, les déclarations de Trump sont tonitruantes, mais sont assez squelettiques et assez minces. On en est donc réduit à des scénarios. Il y a un premier scénario qui est celui que vous évoquez, c'est-à-dire un cessez-le-feu rapide, forcé, faute de munitions et de soutien américain, et un troc entre les territoires. Très bien, vous concédez 20% de votre territoire, 5 oblasts, et en échange, la Russie s'engage à arrêter son invasion. Mais ça risque d'être un marché de dupes, dans la mesure où on sait bien que dans ce type de cessez-le-feu, le temps de reconstituer ses forces, les belligérants peuvent tout à fait reprendre l'initiative, la Russie pour pousser son avantage à la faveur d'un répit, et l'Ukraine pour ne pas se résigner à perdre 20% de son territoire internationalement reconnu. On peut aussi avoir un scénario de négociation qui soit complètement parallèle à un conflit qui continue. Les Russes sont spécialistes de ce genre de négociation, négocier au moment où les combats font rage. On en a vu déjà une phase en février-mars 2022 où des négociateurs se sont rencontrés, russo-ukrainiens, au moment où les combats prenaient de l'ampleur. Et puis, il ne faut pas non plus l'exclure, on peut aussi avoir des négociations de paix où les Européens refusent d'être les figurants, les suivistes, et imposent un agenda ou certains agendas de paix qui soient conformes à leurs convictions et qui soient conformes à leurs intérêts.
Mais quelles sont les convictions, quelles sont les convictions des Européens? On a vu le chancelier Scholz appeler Poutine il y a quelques jours, ce qui a été durement critiqué par Kiev. On voit peut-être les Français, les Britanniques prêts eux aussi à donner leur missile à longue portée à l'Ukraine, ce que refuse l'Allemagne. Il est dur de voir quelle est la ligne européenne aujourd'hui, non?
La ligne européenne, elle est au contraire extrêmement claire. C'est la reconduction depuis maintenant 10 ans de sanctions contre la Russie à l'unanimité, je le rappelle, c'est-à-dire un refus du fait accompli en Crimée dans les 4 oblasts de l'Est de l'Ukraine. 80 milliards d'euros, à moitié en aide civile, à moitié en aide militaire à l'égard de l'Ukraine, et la volonté de recevoir pour l'Ukraine des garanties internationales et pas seulement de la Russie de sa sécurité. Quant à l'appel de Scholz qu'on a très très vivement critiqué à Paris, à Londres, à Bruxelles, que se sont-ils dit? Le chancelier Scholz a tout simplement été fidèle à sa feuille de route dans sa discussion avec Vladimir Poutine. Il a rappelé quelle était la position commune des Européens sur ce conflit en Ukraine, illégal, et il a rappelé au président russe que cette entrée en négociation ne se ferait pas seulement sur un agenda américain, ou plus exactement trumpiste, qui proposerait à l'Ukraine un marché de dupes, c'est-à-dire lâchez les territoires pour toujours et vous aurez un cessez-le-feu provisoire.
Est-ce que on reviendra sans doute dans les prochaines semaines, les prochains mois sur ces futures négociations? Est-ce que dans l'entretemps, est-ce qu'il n'y a pas une grande lassitude de la guerre aujourd'hui dans les deux camps et l'intérêt tant pour la Russie que pour l'Ukraine que ça s'arrête,
Guillaume Ancel? Une lassitude inimaginable, mais ressentie de manière différente. Du côté ukrainien, pour moi, le président Zelensky a fait une erreur stratégique. Il pensait que le conflit durerait moins longtemps. Il n'a pas mobilisé sa société. Et aujourd'hui, il a besoin de recruter entre 150 000 et 200 000 soldats pour pouvoir compenser les pertes considérables qu'ils ont eues. Les Russes, eux, ont consommé plusieurs centaines de milliers de soldats. Et leur question, c'est comment arriver à continuer ces combats sans que la société, à un moment, finisse par se retourner, même si on paye les gens pour. Donc, il y a bien une lassitude très forte et surtout une volonté de Poutine qui a très bien compris qu'il ne pourrait pas envahir en l'état l'Ukraine d'une négociation.
Cyril Brett, en deux mots, 2025, ce sera l'année décisive, l'année de la paix, possiblement, en deux mots.
J'introduirai une nuance. La fatigue de la guerre en Ukraine, je la vois surtout dans l'électorat de Donald Trump. Si on consulte l'eurobaromètre, les Européens sont tous massivement et en majorité pour le soutien à l'Ukraine et refusent le fait accompli. Si on lit la presse russe et si on consulte les réseaux sociaux qui sont un peu plus libres, on voit bien que la société russe s'est installée dans une guerre de longue durée. Voilà. Et on voit également que la société ukrainienne refuse.
Là-dessus. Merci Cyril Brett, géopoliticien Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre. Merci à tous les deux.